Bonjour Monseigneur Brouvé.
Bonjour Anne-Rose.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce cinquième rendez-vous consécutif. Alors cette semaine au programme, eh bien, le premier chapitre, le premier sujet que nous allons aborder, c'est cette question de jauge. On s'est quitté la semaine dernière un peu déçu, un peu agacé, il faut bien le dire, avec cette jauge annoncée par le gouvernement pour les cérémonies, une jauge à 30 personnes. Le Conseil d'État s'est prononcé et a reconnu le culte comme une liberté fondamentale, demandant au gouvernement de revoir la copie. Donc on devrait être fixé dans les jours ou dans les heures qui viennent sur une nouvelle jauge. Est-ce que cette annonce du Conseil d'État vous rassure sur l'état de la laïcité en France, ou au contraire, est-ce que vous êtes un peu inquiet de l'épisode qu'on vient de vivre ?
Alors d'abord, c'est sûr que je salue d'abord la reprise des messes avec une assemblée, donc des messes en public. C'est sûr que la question de la jauge a masqué un peu la joie de pouvoir reprendre les messes, et pour les prêtres et pour les fidèles. Et le Conseil d'État a reconnu que cette mesure était disproportionnée, c'est-à-dire que nulle part ailleurs on imposait un nombre défini de personnes dans un espace. Donc nous, ce qu'on demande juste, c'est que soit reconnu en fonction de la surface un pourcentage de fidèles. Bon, voilà, donc là, le gouvernement travaille. C'est l'Église catholique qui a demandé ce réexamen du Conseil d'État. Le gouvernement a demandé de pouvoir aussi consulter les autres cultes. Voilà pourquoi aussi il y a un petit peu d'attente. Bon, enfin, la décision sera prise. On ne sait pas exactement laquelle, mais on espère bien qu'on pourra reprendre les messes plus sereinement que ça ne s'est fait ce week-end, parce que c'est sûr que 30 personnes, ça a multiplié les messes. Et les prêtres ne sont pas là juste pour dire des messes les unes après les autres, comme ça, simplement parce qu'il n'y a que 30 personnes qui peuvent y assister. Alors sur la question de... Je crois que la question que vous posez, elle est très, très, très intéressante, parce qu'au fond, derrière cela, il y a comment un gouvernement, même le gouvernement de notre République, peut toucher à la liberté de culte. Mmh. Et je crois que ce qui est très important, c'est de voir que ce n'est pas seulement, une question pratique, mais derrière ça, il y a la question de la liberté religieuse. Et le droit à la liberté religieuse, c'est un droit extrêmement fondamental, qui n'est pas... Qui, vous savez, des droits, tout le monde réclame des droits maintenant. Hein, bon, et donc, droit de ceci, droit de cela, enfin, il y a des droits qui sont plus fondamentaux que d'autres. Et le droit à la liberté religieuse, c'est le droit à la liberté de croire en Dieu et de poser intérieurement et extérieurement des actes de culte correspondant à la foi. Alors, c'est très important qu'on repère bien cela, que la foi, c'est de poser dans un lieu secret, hein, ou dans le fond de la conscience, l'homme s'adresse à Dieu et lui obéit. Hein, et c'est un lieu dans lequel le pouvoir politique ne peut pas rentrer sans léser ce droit à la liberté religieuse. Mmh. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement fondamental aussi, hein, parce que le pouvoir politique ne peut pas enfreindre ce droit comme ça parce qu'il l'a décidé du jour au lendemain en disant « c'est l'ordre public ». L'ordre public, c'est une chose, mais ce droit qu'a une personne humaine de pouvoir s'adresser à Dieu et de pouvoir lui rendre un culte à la fois intérieur et extérieur, c'est un droit qui est reconnu. Qu'on ne peut pas quand même faire, si vous voulez, évacuer comme ça, tout simplement parce qu'on l'a décidé et qu'il y a une épidémie. Et je crois que le Conseil d'État a redit cela de manière assez ferme, parce que l'autorité politique peut oublier complètement que, dans l'activisme actuel, on ne peut pas jouer avec les droits des personnes.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État est dans son rôle quand il nous suggère, quand il nous impose des règles sanitaires, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation dans le lieu de culte, mais il va trop loin quand il dit « vous ne dépassez pas 30 personnes dans un lieu qui pourrait en accueillir 500 ou 800 ».
Oui, parce que du coup, il empêche des gens d'exercer le culte qu'ils veulent rendre à Dieu. Donc là, D'ailleurs, il n'y a pas que les chrétiens ou les catholiques qui font, si vous voulez, qui montrent qu'il y a des droits fondamentaux qui sont en jeu et qu'on ne peut pas passer par pertes et profits comme ça, après une réunion, sans y avoir bien réfléchi. Alors, moi, je trouve que la question qui est derrière, vous voyez, nous, on dit « rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », et donc, on fait bien la distinction entre ce qui est de César et ce qui est de Dieu. On doit obéir à César. Pourquoi on doit obéir à César ? J'ai dit ça dans mon homélie à la puisque c'était le thème de l'évangile, hein, c'était l'évangile au pèlerinage diocésain. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle était un peu choquée, qu'on ait dit qu'il fallait obéir à l'ordre républicain. Non, on est citoyen de la République et on doit obéir à la loi républicaine, tout simplement parce que nous pensons que les lois humaines, elles recherchent le vrai, le bien, le juste, hein, et la plupart du temps, elles le font très bien. Mmh. Et donc nous, on entre dans un ordre social qui ne dépend pas de l'Église, qui dépend de ceux qui ont le pouvoir. Et cette loi, ces lois, elles sont des lois justes. Et donc nous avons un devoir d'obéir à ces lois. Mais ça laisse aussi une place pour l'objection de conscience et la résistance éventuelle. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire ce qui est contraire à la conscience droite. Bon, ça fait partie de, voilà, simplement de notre théorie politique, hein, le droit à l'objection de conscience. Mais ça n'empêche que même si nous devons obéir à César, on doit aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, c'est pas du séparatisme. Mmh. Je le dis parce que c'est quelque chose peut-être qui n'est pas bien examiné en ce moment. Hein, parce que si on appelle séparatisme toute objection de conscience à la loi de la République, c'est grave. Parce que ça veut dire que du coup, la seule autorité, l'autorité suprême, c'est l'autorité républicaine. Non, nous avons une autorité beaucoup plus profonde. C'est la loi divine, hein, qui est plus haute que la loi humaine ou politique et qui la transcende. Et cette loi divine, elle interroge et elle oblige notre conscience. Lorsque nous disons, bah ça, je me le demande, mais ça, je ne peux pas le faire en conscience, nous sommes tenus par la loi de notre conscience. Dans Dignitatis Humanae, c'est un texte du Concile Vatican II, un très beau texte sur la liberté religieuse, et j'ai repris ce passage-là, qui dit « Les actes religieux par lesquels, en privé ou en public, l'homme s'ordonne à Dieu, en vertu d'une décision intérieure, hein, transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Hein. » Donc voilà, il y a un acte religieux par lequel l'homme s'ordonne à Dieu par une décision intérieure. Hein. Donc dans le sanctuaire profond de la conscience, nous sommes face à Dieu. Et ça, c'est ce qui décide de nos actes. Et donc cela, ça transcende aussi le pouvoir temporel. Et le Concile Vatican II ajoute le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun, temporel, doit reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens. Mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux. Et donc ça, on a dans notre théologie politique, hein, mm-hmm. Ces fondements qui disent bien le droit de la personne à obéir à Dieu avant toute chose.
Alors ça, on peut l'entendre quand on croit en Dieu, tout simplement, mais dans un monde qui ne connaît pas ou qui ne reconnaît plus Dieu, c'est plus difficile à comprendre et à entendre. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que la laïcité est mal comprise ou mal organisée parfois ?
C'est-à-dire qu'on ne comprend pas si on ne distingue pas l'ordre des choses entre ce qui est du temporel et puis ce qui est du religieux. Mais je crois que même quelqu'un qui ne croit pas peut comprendre qu'au fond de sa conscience, on ne peut pas l'obliger à poser des actes qu'il n'a pas envie de poser. Je vous rappelle le très beau film « Une vie cachée », hein, que je recommande à tous les auditeurs, hein, qui est un film qui est sorti en DVD là, cet été, hein, et qui raconte l'histoire de cet Autrichien, de ce paysan autrichien qui n'a pas voulu servir dans l'armée nazie, puisque l'Autriche avait été annexée par l'Allemagne nazie. Et on lui demandait de porter les armes, mais en portant les armes, de signer un acte, disons, d'obéissance à l'idéologie nazie et au Führer. Hein. Et donc, lui, il n'était pas contre porter les armes, puisqu'il faut bien défendre son pays aussi, mais il était contre cet acte d'obéissance, hein, cet acte de soumission à l'idéologie nazie, qui était pour lui une idéologie à la fois païenne, à la fois injuste, à la fois extrêmement autoritaire. Voilà. Et il n'a pas voulu signer. Alors on lui a dit, mais quand même, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous n'avez qu'à signer, personne n'en saura rien. Et puis il dit, non, moi je ne peux pas signer.
Sa conscience était plus forte.
Et oui, alors ça a été le premier martyr de la conscience, parce qu'il a été, condamné à mort. Hein, et ça a été pour nous le premier martyr de la conscience, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie parce que sa conscience l'obligeait, hein, et qu'il ne pouvait pas poser cet acte. Alors il a été béatifié par l'Église. Sa femme, qui est morte à 101 ans, a assisté à la béatification d'ailleurs, parce qu'elle a vécu très longtemps. Il a été mis à mort en 43, je crois, hein, bon, en 1943. Voilà. Et donc là, il y a des questions qui sont profondes et auxquelles... on ne peut pas ne pas répondre, on ne peut pas ne pas faire attention. Surtout que là, on est en train de dire aux musulmans, la question du séparatisme, c'est une question qui est posée aux musulmans en disant, écoutez, vous êtes dans une république, ce n'est pas la charia qui gouverne le monde, disons, l'organisation de la société, mais c'est les lois de la république. Ça n'empêche pas qu'on puisse être fidèle à Dieu et qu'on puisse dire à un moment, non, par exemple, je ne peux pas manger de cette nourriture parce que ma conscience me l'interdit. Mmh. Voilà, donc il peut y avoir des... Vous voyez, mais ça, c'est une question différente, hein, que de ne pas vouloir obéir aux lois de la République. Alors, on peut demander des aménagements, on peut dire, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais quand même, la loi républicaine nous oblige lorsque nous sommes sur le territoire français.
Voilà, alors voilà un beau sujet pour ce temps de l'Avent, prendre le temps d'examiner sa conscience. Un mot quand même positif, c'est que la vie reprend son cours normal petit à petit, que de plus en plus de lieux petit à petit peuvent rouvrir. Et c'est le cas, vous vouliez en parler aujourd'hui, Mgr Brouvet, c'est le cas aussi des aumôniers, des visiteurs de personnes malades qui peuvent reprendre leurs visites. Et ça, c'est important, c'est bon signe.
Oui, alors... Il faut dire que le deuxième confinement n'a pas été exactement comme le premier. Le premier interdisait pratiquement toute visite. C'était très, très compliqué. On s'est rendu compte, et le gouvernement avec nous, hein, qu'on ne pouvait pas laisser les gens complètement seuls, séparés de leur famille, parfois mourir complètement isolés des leurs. Bon, donc, il y avait déjà... dans le deuxième confinement, une possibilité de visite, hein, alors qui a été très différente en fonction des EHPAD, en fonction de l'état sanitaire de l'EHPAD aussi, parce qu'il y a des EHPAD qui ont été des clusters, et du coup, mais là, si vous voulez, en reprenant les messes, il n'y a pas que les messes qui reprennent, il y a aussi des commerces qui réouvrent, mais il y a aussi des EHPAD et puis des cliniques qui se réouvrent aussi aux visites, des familles, visitent des visiteurs, des prêtres aussi. Voilà. Là aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui est très important. Hein. C'est non seulement le droit d'être accompagné dans sa foi, en particulier lorsque on va pas bien ou lorsqu'on est mourant. Donc là, il y a aussi un droit fondamental qu'on doit pouvoir exercer. Mais il y a plus généralement... nous sommes des êtres sociaux et on ne peut pas tout d'un coup dire on vous met sous cloche et puis il n'y a plus personne avec vous. On se rend compte combien notre humanité elle a besoin de contact. On a besoin de se parler. On sait très bien maintenant comment faire pour avoir un contact sans se transmettre le virus. Alors à partir du moment où on sait le faire, eh bien, il faut que ça soit rendu possible. Et là, il y a eu quelque chose d'extrêmement dur au premier confinement, qui a été d'isoler tout le monde sans se rendre compte que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas, que des corps porteurs de visite, nous sommes aussi des êtres humains. Il y a une vie sociale qui doit continuer et sans laquelle il peut y avoir un profond sentiment d'isolement, voire un burn-out, voire une déprime. Et ça.
Puis on a besoin de se voir. Enfin, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, il y a tout un tas de possibilités techniques, mais il arrive un moment où on ressent vraiment le besoin de voir l'autre, de le regarder dans les yeux. De, voilà. Alors, on ne peut pas serrer la main, mais on peut se taper le coude. Enfin, oui. De sentir la personne ouais. proche de nous, c'est très important, ça.
Voilà, et ça nous dit des choses extrêmement importantes, je crois, sur notre anthropologie, c'est-à-dire sur ouais. la manière de regarder la personne humaine. Parce que nous avons besoin de nous voir en face à face. Et puis, il n'y a pas que la technique, en particulier la technique médicale, qui doit gouverner notre société. On ne oui. peut pas simplement dire nous avons peur du virus et donc plus personne ne sort de chez lui. Et là, on voit que, vous voyez, il manque parfois d'humanité hein, dans les décisions prises par un pouvoir politique. Il peut y avoir un manque de... Voilà, on ne se rend plus compte de cela. On ne se rend plus compte combien nous avons besoin les uns des autres. Je remarque en particulier que pour la messe du dimanche, c'est aussi un besoin. Hein. Beaucoup de gens disent, mais au fond, on sait très bien qu'on peut avoir la messe sur Internet. On sait très bien qu'on peut éventuellement aller communier, mais ça ne remplace jamais la vraie messe, si je puis oui. dire. C'est-à-dire en chair et en os, avec le prêtre, avec les gens. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que parce que je faisais quand même assez attention là, cet été aux questions sanitaires. Et donc, on est à la messe, là, et puis on a notre masque, et puis on est en distance, etc. Mais après la messe, on a envie de parler.
Eh oui.
Et là, c'est là, je vois, où parfois, vous voyez, la discipline... diminue, hein, parce qu'au fond...
Le parvis des églises, les parvis des églises sont faits pour ça aussi.
Voilà, les parvis des églises sont faits pour ça, et ça fait partie aussi de la vie de la communauté. On a besoin, tout le monde réfrène hein, ses envies de partager, de déjeuner ensemble, de se retrouver pour une soirée. On sait très bien qu'il y a une discipline à avoir pendant la pandémie, mais on voit très bien combien ça nous est... ça nous manque. Et je trouve ce qu'il y a de beau aussi, c'est un petit peu comme pour les balades qu'on peut faire maintenant à 20 km, mm-hmm. eh bien, on se rend compte combien finalement c'est une grâce de rencontrer quelqu'un. C'est une grâce de passer 2 heures ou 1 heure dans un beau paysage, de pouvoir juste se balader. C'est comme si des choses qu'on nous avait enlevées nous étaient rendues pour nous dire regarde comme finalement c'est un cadeau. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu es invité à déjeuner, à chaque fois que tu as des amis qui viennent chez toi, à chaque fois que tu peux juste profiter de nos Pyrénées, quoi. Et peut-être que là, il faut... se souvenir que nous avons une action de grâce à faire monter vers le Seigneur pour ces moments si simples, mais qui nous ont été ôtés et que nous retrouvons avec beaucoup de joie.
Monseigneur Brouvet, la deuxième partie de notre entretien aujourd'hui est consacrée à la santé des prêtres. Voilà un sujet surprenant, intéressant, passionnant même. La CEF a publié un rapport sur la santé des prêtres. C'est assez édifiant comme rapport. D'abord, pourquoi la CEF a fait une enquête, a mené cette enquête sur la santé des prêtres? Quelle était la nécessité d'enquêter sur ce sujet-là?
Ben, on a parfois besoin de savoir, mais alors à grande échelle... d'avoir des éléments un peu objectifs hein, pour mesurer. Mmh. Alors, ça peut être, je sais pas, la pratique religieuse, ça peut être la manière dont l'Église est regardée. Bon, mais là, c'était sur la santé des prêtres parce que on avait besoin de faire un point un peu objectif aussi pour savoir ce dont les prêtres manquaient, comment mieux les suivre, comment mieux les accompagner. Quel genre à quel genre de vie il faut les pousser. Alors, et donc on a eu cette enquête qui a été faite par un organisme compétent, mais sous la
CEF, la Conférence évêque de France, qui a demandé cette...
Voilà, c'est sous la coordination de la CEF, en particulier de Mgr Benoît Bertrand, qui est évêque de Mende et qui est pharmacien de formation, donc qui connaissait le sujet. Et voilà, et donc ça a été fait, une enquête qui a été faite entre février et juin.
De cette année.
Alors il y a eu près de 6000 prêtres sollicités et 3500 qui ont répondu.
Quelles ont été les questions? Dans le rapport, on voit que les champs qui ont été examinés sont très très vaste. Ça va vraiment dans, ça questionne chaque prêtre sur son quotidien, sur sa santé physique et aussi psychologique. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cela?
Oui, parce que ça, quand on veut savoir comment vont les prêtres, il faut les interroger un peu sur tous les domaines de leur existence, y compris ceux auxquels on pense pas. Par exemple, qu'est-ce que fait un prêtre pendant son temps libre? Est-ce qu'il a du temps libre? Est-ce qu'il a des vacances? Voilà, comment il mange? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit? Comment il se sent vis-à-vis de sa hiérarchie? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions qui sont importantes pour pouvoir avoir une sorte de photo, hein, Nous, c'est important parce que, vous voyez, par exemple, dans le diocèse, on a fait, là, pendant 2-3 ans, on a mené une réflexion sur la manière dont les prêtres pouvaient vivre. Mmh. Parce que, tout simplement, quand un évêque nomme des prêtres, moi, quand je nomme des prêtres, je les nomme où? Où est-ce que je les nomme? Et je les nomme dans quelles conditions? Je les mets dans quel presbytère? Est-ce que je les mets les uns à côté des autres? Est-ce que je favorise une vie commune ou bien des regroupements?
C'est-à-dire que vous devez sentir avant si ce prêtre veut ou peut vivre seul.
Oui, alors c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est qu'on a travaillé là-dessus pour que on ne fasse pas simplement des nominations qui soient des bouche-trous. Bon, il y a un prêtre qui s'en va là, bah, je vais en mettre un là. Mais dire est-ce qu'il serait pas plus intelligent, alors ce qu'on a fait justement, d'essayer de faire que les prêtres soient pas loin les uns des autres, que les prêtres aient par exemple un ou deux repas en commun par semaine pour pas qu'ils soient tout seuls. Parce que vous voyez, il y a des choses qui sont naturelles, et puis il y a des choses qu'il faut que l'évêque doit pousser. Il y a des choses que les prêtres font parce que voilà, ils en ont envie. Et puis il y a aussi une manière pour l'évêque, hein, de pousser les prêtres, hein, par exemple à se voir, par exemple à prendre des vacances.
C'est quelque chose à laquelle vous veillez personnellement?
Oui, alors oui, parce que j'ai toujours veillé. Alors ça ne veut pas dire que les prêtres, si vous voulez, obéissent à mes recommandations.
Vous êtes attentif à leur mode de vie s'ils sont bien, heureux, quoi, en fait.
Oui, avec quelques points d'attention sur l'isolement.
Oui. Hein,
avec quelques points d'attention sur la nourriture. Avec quelques points d'attention sur l'appartement, enfin en tout cas le logement dans lequel ils habitent. Hein. Je vous rappelle quand même que jusqu'à il y a 2 ans, un prêtre avait encore les toilettes qui donnaient sur la terrasse. Donc il fallait qu'il sorte sur la terrasse pour entrer dans les toilettes dans son presbytère. Voilà. Donc on a cassé les cloisons, on a fait ce qu'il fallait. Mais c'est à l'évêque quand même de regarder. Et puis ensuite, voilà, est-ce que le prêtre est seul? Est-ce qu'il voit un peu du monde? Est-ce qu'il a un accompagnateur spirituel, par exemple? La question, c'est de trouver un équilibre quand on est prêtre entre... parce qu'en fait, on est prêtre pour une communauté. On est prêtre pour une commune, pour des villages. Mmh. Voilà, donc... il faut que le prêtre, il est plutôt amené à vivre seul,
mais pas la solitude.
Pas l'isolement.
Ouais, pas l'isolement.
La solitude, oui, l'isolement, non. Parce que la solitude, c'est propre au prêtre d'abord qui est célibataire, et c'est une solitude qui est habitée par Dieu, et qui est une solitude aussi de service, de disponibilité du cœur aux paroissiens. Ça n'empêche pas que parfois, comme on l'a fait par exemple à Lannemezan ou dans d'autres, ou Argelès, dans d'autres lieux, les prêtres vivent ensemble. Et donc, moi, je préfère grouper les prêtres, hein, même s'ils ont chacun leur appartement, mais au sein d'un îlot, disons, d'un îlot de bâtiment, où comme ça, ils peuvent se croiser, ils peuvent échanger, ils peuvent prendre des repas. Mais il y a quand même une solitude, il y a une solitude qui est obligatoire dans la vie du prêtre. Ensuite, l'isolement, c'est le prêtre justement qui ne voit plus personne. C'est le prêtre qui ne voit plus ses confrères. C'est le prêtre qui ne veut plus prendre des repas avec ses confrères. C'est le prêtre qui ne va plus aux réunions qu'on lui propose, soit l'évêché, soit dans son doyenné.
Et qui tend du coup vers la déprime, voir le burn-out.
Et puis alors, je crois aussi plus profondément, c'est le prêtre qui travaille seul. Parce que je pense que le fond de la question de la solitude dont on parle, c'est est-ce que... il a une équipe autour de lui, avec laquelle il travaille, une équipe de laïcs, et avec laquelle il porte la responsabilité de l'évangélisation de son territoire. Et ça, on est en train, je crois, de sortir peu à peu hein, d'un prêtre qui conduit tout, mais surtout, vous voyez, qui n'arrive pas à partager le propre de sa mission, qui est justement l'animation pastorale de son territoire paroissial.
Mais ça veut dire qu'il faut savoir collaborer, déléguer, coordonner, ça s'apprend, ça aussi.
Oui, mais surtout, il faut savoir être fraternel et proposer à des gens qui sont autour de lui de partager sa mission et dire ça, on peut réfléchir avec vous. Je crois que ce qui fait parfois la solitude du prêtre, c'est le poids des responsabilités qui ne peut partager avec personne. Le travail qu'on a fait sur les équipes d'animation paroissiale, là, il y a quelques années aussi, tendait vraiment à cela. C'est-à-dire... Mon père, vous n'êtes plus tout seul, monsieur le curé, vous n'êtes plus tout seul. Vous avez 2, 3, 4, 5 frères ou sœurs de la communauté qui portent avec vous, pas seulement un petit bout de la mission, mais l'ensemble de la mission.
Ça veut dire que les fidèles sont vraiment concernés par cet état de santé des prêtres, de leur curé.
Ah oui, alors ça, vous avez tout à fait raison de dire que si on parle de cette enquête, c'est pas parce qu'ici, sur cette radio, on s'adresse qu'aux prêtres, mais c'est aussi parce que tout le monde est responsable, je crois, de la santé des prêtres.
Et oui, si l'ACEF a publié ce rapport, c'est bien pour nous sensibiliser, pour nous dire voilà. Veillez à vos prêtres.
Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai toujours... je pense que... Les fidèles ici, dans les Hautes-Pyrénées, le font quand même pas mal. Mmh. Les prêtres sont invités, les prêtres, on leur apporte parfois un petit supplément pour le déjeuner.
Et c'est ce que souvent vous suggérez à la fin de la messe chrismale, chaque année, en invitant les fidèles à ne pas hésiter à apporter un petit panier de foie gras, de pâté.
Oui, j'ai beaucoup fait, parce que, même dans les paroisses, parce qu'il me semble que... les prêtres ont aussi besoin de ça, c'est-à-dire ils ont besoin aussi de l'amitié, de la fraternité. Peut-être ils ont besoin parfois aussi d'être bichonnés par leurs fidèles. C'est une manière de leur dire merci, parce que c'est important pour le moral des prêtres aussi. Hein. Donc moi je trouve que le résultat de l'enquête montre quand même une relative bonne santé des prêtres. Et puis à la fois une bonne santé physique et puis une bonne santé psychique. Mmh. Alors évidemment, il y en a qui font remonter que... il y a parfois la question de l'isolement qui remonte. Il y a parfois aussi la question des rapports avec les hiérarchies. Il y a parfois la question de l'accomplissement. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, quand on est prêtre vers 30 ans, on est tout feu, tout flamme, et c'est normal et c'est bien. Bon, il peut y avoir une usure vers les 45 ans... 40, 45, 50, il peut y avoir un peu une usure, surtout si on a déjà fait 2 paroisses, bon, enfin une troisième, une quatrième, avec un appauvrissement aussi du ministère des prêtres à l'heure actuelle. Tous les prêtres pratiquement sont en paroisse. Avant, des prêtres faisaient beaucoup de choses. Il y a 50 ans, vous aviez des prêtres professeurs, vous aviez des prêtres au travail, vous aviez des prêtres... il y avait des prêtres un peu dans tous les domaines de la vie sociale. Vous avez des prêtres chercheurs. Bon, moi, j'ai eu des profs qui étaient prêtres. Bon, à l'heure actuelle, les prêtres, quand on en a tellement besoin qu'ils ne vont pas enseigner le français ou ils ne vont pas enseigner les mathématiques. Ils vont être en paroisse. Bon. Et du coup, là, il y a un appauvrissement aussi, parce que ça permet moins de renouveler, de proposer à un prêtre, de dire bah, « Tiens, vous allez faire quelque chose d'autre pendant 6 ans ou 9 ans ou 12 ans. Tiens, on aurait besoin de vous pour ce ministère qui est un peu particulier. » Et ça permettait de repartir, ça permettait de se renouveler dans son sacerdoce. Et donc là, les prêtres le disent aussi hein, dans les commentaires qui sont faits. Voilà. Et donc, et moi, j'ai remarqué que s'il y a quelques prêtres en surpoids... S'il y a quelques prêtres qui sont en burn-out, en déprime, bon, ça n'est quand même pas, si vous voulez, la majorité des prêtres.
Hein. Oui, une estimation de burn-out pour moins de 2% des prêtres, signifie le rapport. Mais alors maintenant qu'on a ce rapport, tous ces chiffres, qu'est-ce que la CEF va en faire ? Vous parlez de la fatigue ou de l'accomplissement des prêtres. Maintenant qu'on a posé ces mots, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour répondre à ceux qui ont besoin d'aide ?
D'abord, on va le travailler dans le diocèse, on va le travailler avec les prêtres. Moi, j'aimerais bien voir la réaction des prêtres, ceux qui ont répondu à ce questionnaire, mais ceux qui n'ont pas répondu et qui disent bah, « Tiens, comment est-ce qu'ils réagissent ?»
Et pourquoi ils n'ont pas répondu ?
Oui, alors parfois, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'enquête, elle n'est pas arrivée jusqu'à eux parce qu'on n'avait pas le bon mail. Bon, parfois, parce que Ils l'ont mis de côté et puis ils ont oublié. Bon. Mais peu importe, parce que ça, je trouve que c'est assez... vous voyez, 3500 réponses, ça dit quand même quelque chose de fort. Et nous, on va dans les Hautes-Pyrénées, on va le travailler avec les prêtres, avec le conseil presbytéral, mais avec tous les prêtres aussi, prêtres et diacres. Mmh. Voilà, en disant, bah, qu'est-ce que ça nous dit, hein, est-ce que d'abord les prêtres se retrouvent dans cette enquête ? Parce que peut-être qu'ils ne s'y retrouveront pas. Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est un moyen aussi de parler avec eux, de dire est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendriez, par exemple de l'évêque, du diocèse, de je ne sais pas de qui d'ailleurs, hein, bon, mais des médecins. Vous voyez, par exemple, sur la nourriture, moi, ça m'a toujours beaucoup... Je me demande parfois ce que les prêtres mangent. J'ai un peu peur que ça soit un petit peu rapide ou pas très sain. Ou, bon. Mais ça, le regard qu'on pose sur ce qu'on mange, il est très différent d'un prêtre à l'autre. Moi, si un prêtre mange un truc devant moi, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de manger ? Peut-être qu'il trouvera que c'est très bien, c'est très bon pour son moral, que c'est pas de problème pour la santé, il s'est toujours nourri comme ça. Bon. Moi, j'avais un vicaire, quand j'étais curé, j'avais un vicaire qui mangeait beaucoup de pizza et de coca parce qu'il s'occupait des jeunes, quoi. Bon. Et j'étais un peu inquiet. Bon, lui, ça ne le gênait pas. Bon. Mais oui, on peut se dire, tiens... Comment on se nourrit ? Alors peut-être qu'il y en a qui ont besoin de cours de cuisine. Peut-être
oui, parce qu'en fait, ils n'ont jamais appris à cuisiner. Ils se retrouvent dans leur presbytère, mais ils ne savent pas cuisiner. Ils n'ont pas tous une cuisinière.
Non, alors c'est ça où, justement, on peut... J'ai demandé aussi au doyenné là, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait venir au moins 2 jours par semaine pour faire une nourriture saine. On regroupe tous les prêtres dans le doyenné 1 ou 2 fois par semaine avec quelqu'un qui fait une entrée, un plat, un dessert, avec des légumes... donc on fait attention un peu à ce qu'on mange. Hein. Bon, je me rappelle qu'au séminaire j'avais proposé qu'il y ait des cours de cuisine et le supérieur avait dit ah non mais attendez il y a tellement de trucs on va pas en plus organiser des cours de cuisine rapide au micro-ondes mais saine quand même. Bon, n'empêche que on peut peut-être attirer l'attention des prêtres sur la manière de sur le sport à faire. Est-ce qu'il y en a qui font du sport ? Est-ce qu'il y en a qui sortent ? Sur les vacances, moi, j'ai
toujours vérifié. Est-ce que certains profitent de la montagne ?
Je me suis rendu compte depuis que je suis là, c'est qu'au fond, il y a des prêtres qui partent pas en vacances, qui disent « Non, moi, je suis là, je suis bien, je n'ai pas besoin de partir. Bon, » peut-être que ça fait partie des choses auxquelles on peut sensibiliser les prêtres. Parfois, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de quitter la paroisse. Et voilà. Et donc, peut-être on a aussi besoin d'organiser un système de remplacement. Hein, pour que le prêtre puisse partir une semaine, 2 semaines. Bon, ça, c'est vraiment des questions qui sont ouvertes. Et moi, j'aimerais bien peut-être organiser une journée sur ce thème-là avec les prêtres du diocèse.
Voilà, donc un dossier à suivre dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Pour finir, Monseigneur Bouvet, eh bien, on donne rendez-vous aux auditeurs samedi prochain pour la deuxième édition, enfin en tous les cas, le deuxième samedi des 4 samedis pour Dieu. La première édition était samedi dernier, premier samedi de l'Avent, un temps autour de la parole de Dieu. C'était une réussite. On recommence samedi prochain en donnant rendez-vous aux auditeurs pour méditer sur la parole de Dieu.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on propose. Hein, donc tous les samedis de l'Avent à 17h30 jusqu'à 18h15, un temps de prière, de louange, parce que nous avons besoin de louange en ce moment. Je crois que c'est important qu'on se redise combien, même s'il y a des difficultés, même s'il y a, on traverse un temps d'épreuve, on a besoin de louer le Seigneur. Un temps d'introduction à la méditation personnelle d'un texte. Hein, l'idée, c'est que bon, y a un prêtre là qui nous donne des éléments pour méditer un des textes du dimanche. Mais c'est pour qu'ensuite chacun puisse reprendre ce texte et puis faire une méditation personnelle qu'on appelle la Lectio Divina. Ça veut dire que c'est un accueil croyant, mm-hmm. un accueil dans la foi et dans la prière de la parole de Dieu. Et puis ensuite, on chante les vêpres, les premières vêpres du dimanche. Donc, la semaine dernière, là, c'était avec les Fraternités de Jérusalem à la cathédrale. Et cette semaine, ce sera avec 2 familles du diocèse, famille Carrère et la famille Carillon. Et puis, un prêtre qui viendra prêcher, le prêtre François Bustillot. Et donc, ça sera à chaque fois avec une petite communauté différente. Là, ce sont des familles. Et l'idée, c'est vraiment de s'arrêter, de prendre du temps pour la parole de Dieu. puisqu'on va l'accueillir. Le mystère de Noël, c'est vraiment l'humanité qui accueille le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui se fait chair. Mmh. Et bien, comment on donne la possibilité à la parole de Dieu de prendre chair en nous, hein, dans la Lectio Divina. On lit le texte, mais ensuite, il y a un moment où on dit, mais qu'est-ce que cette parole me dit à moi dans les circonstances actuelles? Et donc, vous voyez, faire ce geste, hein, tous les samedis, faire ce geste d'accueil de la parole en son cœur, pour que le jour de Noël, bien, on se dise, ah bah oui, vraiment, je m'y suis préparé, hein, et ça veut dire quelque chose, cette fête de Noël. Et donc, nous, ce qu'on veut offrir par cette Lectio Divina, c'est un service, le service du recueillement, le service de l'intériorité, le service de s'arrêter pour, au milieu du brouhaha du monde, accueillir la parole, hein, avec un grand P, qui est la parole du Seigneur.
Voilà, s'imprégner de la parole du Seigneur chaque samedi de l'Avent. Alors, je rappelle que c'est à suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du diocèse de Tarbes et Lourdes. Il suffit de se connecter à 17h30. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, qui sont allergiques aux réseaux sociaux, il suffit d'aller sur le site du diocèse catholique65.fr. Et puis là, dès la page d'accueil, vous êtes dirigé sur ce temps de lectio en communion avec tout le diocèse. Mais c'est quand même un temps pour soi, pour préparer la fête de Noël.
Voilà.
Merci beaucoup, Mgr Brouvet.
Merci,
à la semaine
Anne-Rose.
Prochaine.
Bonne semaine à tous les auditeurs.